La science CQFD, Natacha Triou.
Cette semaine, on donne la parole aux nouveaux explorateurs, à celles et ceux qui mettent leur corps au service du savoir. Aujourd'hui, en route pour une exploration cérébrale et neurologique, comment explorer la transcognitive. Le terme trans fait encore peur dans les milieux scientifiques. Il évoque le chamanisme, l'ésotérisme. Depuis 2017, les hôpitaux et les laboratoires ouvrent leurs portes à ce nouveau champ d'études et la recherche académique commence seulement à défricher ce territoire complexe. Comment étudier cet état de conscience altéré, difficile à définir et également appelé état de conscience non ordinaire? Après l'hypnose, la méditation et les substances psychédéliques, c'est au tour de la trans de passer au crible des neurosciences. Nouvelles explorations, entrez dans la transe. Et nous sommes en ligne avec Audrey Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'Institut de recherche Transsciences et chercheuse en neurosciences cognitives. Et depuis ici, Pays Basque, en duplex, nous sommes avec Antoine Bioy, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes psychologue clinicien, professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Paris 8. Et une voix que nos auditeurs reconnaîtront. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Natacha.
Vous êtes reporter et documentariste à France Culture et vous avez publié en 2024 « Trans, enquête sur un état de conscience modifié » aux éditions du CNRS. Joie de vous avoir à ce micro. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous d'être toujours là au rendez-vous pour notre quatrième saison, en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors qu'est-ce qui, au niveau cérébral, induit ces phénomènes de transe? La transe peut-elle devenir un outil thérapeutique au même titre que l'hypnose, aux effets désormais bien connus? Et si oui, pour quels usages? Nous avons une heure pour répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, Audrey Breton, c'est quoi la transe? Comment vous la définissez?
Alors, la transe, je vais l'intégrer dans justement le champ de ce qu'on appelle les états non ordinaires de conscience. J'aime beaucoup l'appellation non ordinaire. Cette appellation, elle a évolué. On parlait d'altérer, puis de modifier. Puis maintenant, on parle de quelque chose de moins fréquent, de non ordinaire. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que cette appellation évolue, peut-être bientôt, dans les prochaines années, au fur et à mesure que les recherches avancent sur ces questions. Donc la transe dans la constellation des états non ordinaires de conscience. Moi, je vais vous parler au fil de cette émission. L'objet d'étude, c'est vraiment la transe lorsqu'elle est auto-induite, c'est-à-dire lorsqu'elle est, elle est déclenchée volontairement, sans substance, sans stimulation auditive, simplement vraiment par la volonté de l'individu. Donc on va parler d'un état non ordinaire, intentionnel, et qui va s'accompagner de différentes modifications de la perception du réel, notamment, par exemple, la perte des repères spatio-temporels, notamment, par exemple, et ça, c'est assez spécifique de l'état de transe, un sentiment de dissociation transitoire, c'est ça qui est très important aussi, et léger. C'est-à-dire que ce n'est pas un état de dissociation qui perdure. Peut aussi s'accompagner, par exemple, en état de transe, un imaginaire extrêmement vivace, très vivide, d'une hyper-émotionnalité, très associé également à la transe et à la transe cognitive auto-induite, le déclenchement de manifestations physiques, vocales, postures non intentionnelles.
Et on verra évidemment tout au long de cette émission, un peu plus tard, quels sont les protocoles justement pour rentrer dans cette transe cognitive auto-induite, aussi appelée TCAI. Mais je rebondis sur ce mot, Antoine Bioy, vous aussi vous l'utilisez, hein, ce moment non ordinaire de conscience pour définir ce qu'est la transe.
Oui, si on utilisait une image, on pourrait dire par exemple que si vous êtes dans un endroit et puis vous avez une musique de fond, c'est un état de conscience, vous entendez qu'il y a de la musique, vous n'y prêtez pas vraiment attention. Et puis, peut-être qu'une musique va attirer particulièrement votre attention, vous allez souhaiter y accorder la ressentir de manière un peu plus importante. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un état non ordinaire de conscience, c'est-à-dire vous allez faire un effort de façon à pouvoir vraiment ressentir corporellement, sensoriellement, cette musique, la façon dont elle peut aussi engager des émotions. Et si par contre vous êtes dans un concert juste à côté d'immenses baffles, eh bien vous allez tout d'un coup avoir un niveau de musique extrêmement important dans lequel vous allez ressentir les basses dans votre corps, etc. Vous pourrez pas l'arrêter. C'est effectivement transitoire et c'est ce qu'on va appeler la transe, c'est-à-dire le fait d'être immergé dans une perception corporelle qui va engager des émotions, des images particulières. Ce terme de transe, il date des années 90, il vient désigner les pratiques hypnotiques, les pratiques méditatives, les techniques de relaxation, certaines techniques en tout cas de relaxation, de respiration particulière, pour justement caractériser ces pratiques dans lesquelles le sujet va être impliqué sensoriellement et dans son imaginaire, dans un moment tout à fait particulier et qui va lui apporter un certain nombre de bénéfices ou parfois d'inconvénients, comme on le verra.
Mmh. Antoine Bia, il faut aussi rappeler que voilà, on a compris que la conscience n'est pas unitaire.
Non, ça c'est effectivement une, c'était démontré depuis maintenant plus d'un siècle, et notamment par William James, qui est le père de la psychologie aux États-Unis, et qui comparait la conscience en fait à de la rivière, à une rivière. Et il disait évidemment, on peut considérer que la rivière c'est une rivière, elle peut être définissable, on a l'impression que c'est la même, mais en fait elle est toujours dans un état différent. Il y a toujours du courant, il y a toujours. Et il comparait la conscience à ça en disant finalement la conscience, c'est-à-dire un état d'éveil avec des contenus, des images, des émotions. En fait, la conscience paraît être quelque chose d'unitaire. Mais en vrai, il faudrait parler d'état de conscience au pluriel, et un individu n'est jamais dans le même état de conscience. Ce qu'on va appeler la transe, c'est quand tout d'un coup, il va y avoir l'irruption, comme cette musique extrêmement forte, de quelque chose qui va le mobiliser intensément.
Céline Lozen, dans votre ouvrage, vous faites aussi un constat, la définition de transe est lacunaire.
Oui, elle est lacunaire et elle pose problème déjà par sa dénomination. La transe, elle charrie beaucoup de choses dans l'imaginaire. La transe, comme caractère pathologique, elle réfère au psychédélique, au pathologique. Alors que non, la TCAI, c'est un état non pathologique, réversible, comme l'a souligné Audrey, et qui peut s'induire par la seule volonté. Donc on garde le contrôle, vraiment, de tout le processus, et il n'y a pas du tout de caractère pathologique et tout le fantasme associé. Et il est important de définir vraiment, de clarifier les termes, parce que quand on parle de transe, évidemment, ça rebute une partie de la communauté scientifique. Même ceux qui sont dans l'étude de l'hypnose, de la méditation à caractère thérapeutique. Donc il est important de clarifier les termes.
Mais aujourd'hui, en effet, tous les autres états de conscience non ordinaires sont étudiés très sérieusement. C'est le cas notamment de l'hypnose et c'est notre archive du jour.
La science en marche. Aujourd'hui, l'hypnose entre la crédulité et la négation.
Il y a plusieurs stades dans la transe. Disons que, à son stade le plus léger, le sujet est anesthésié et dans un état de rigidité des membres. Dans un stade un peu plus profond, il y a amnésie et possibilité de ce qu'on appelle les suggestions post-hypnotiques, c'est-à-dire l'exécution, une fois la transe dissipée, de comportements qui ont été suggérés pendant la transe. Enfin, il y a un dernier stade, qui est le stade de transe profonde, qui est le somnambulisme ou sommeil hypnotique, qui est un sommeil très particulier dans lequel le sujet éprouve des perceptions sensorielles et est capable d'avoir un comportement automatique, comme de marcher ou d'avoir certaines attitudes. Mais en réalité, dans la réalité, on observe tous ces états de façon très imbriquée. Et certains éléments peuvent manquer, ou d'autres être en quelque sorte hypertrophiés. Et il faut ajouter que la transe n'est pas liée à la profondeur de la relation hypnotique, c'est-à-dire ce lien qui existe entre l'hypnotisé et l'hypnotiseur. Alors je crois qu'il faut encore ajouter à cela des phénomènes hypnotiques, mais alors qui sont une foule de choses
tout.
Qui appartiennent dans le fond aux réactions psychosomatiques.
Oui.
Au niveau sensoriel, on peut provoquer une anesthésie ou des modifications auditives, visuelles, olfactives. Au niveau musculaire, on peut provoquer des paralysies, des contractures. Au niveau mental pur, des illusions, des hallucinations même, ou des modifications de la mémoire. Et puis alors, il y a une chose qui est très, très curieuse et qu'il faut, je crois, ne pas manquer de parler parce qu'elle est assez troublante, c'est l'écriture automatique. L'écriture automatique qui est réalisée en mettant le sujet, étant anesthésié, dans la possibilité d'écrire sans voir sa main. Et alors le sujet écrit sur le papier toutes sortes de choses dont il n'est pas conscient.
Voilà, le journaliste François Le Lyonnais est un médecin anonyme dans le magazine des sciences sur la RTF en 1963. Antoine Bueil, trans et hypnose finalement, quelle différence pour compléter cette archive?
En fait, il n'y en a pas. On parle d'ailleurs de trans hypnotique depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire que les trans, c'est l'ensemble des pratiques telles qu'on les caractérisait tout à l'heure. C'est-à-dire cette intensité dans laquelle la personne va être plongée. Et tous les signes, en fait, qui ont été indiqués dans cette archive sont tout à fait exacts. La seule chose, c'est que on va différencier, bien sûr, ce que l'on obtient en laboratoire, ce qui était le cas dans cette archive, et en clinique. En clinique, lorsqu'on est avec un patient, moi, j'ai la chance de faire les deux, à la fois de la recherche et de la clinique. On va pas créer tous les événements qui ont été décrits. Mais globalement, tout ce qui a été décrit comme signes sont tout à fait exacts. La seule chose peut-être que l'on pourrait moduler, c'était ce qui était dit sur la fin. C'est-à-dire, on avait l'impression à l'époque que l'hypnose était un pouvoir et que l'expérimentateur imposait ça. Et puis, en fait, dès les années 50, on s'est rendu compte que toute forme de transe était en fait auto-induite, notamment dès qu'elle était donnée dans un cadre thérapeutique. Et même depuis 1989, on définit l'hypnose comme étant précisément une forme d'auto-hypnose. Toute hypnose est une auto-hypnose, disait Joseph Barber, c'est-à-dire une forme finalement de contexte dans lequel un individu va s'autoriser à manifester tous les éléments qui ont été donnés dans l'archive.
Mais justement, à propos de manifestation, Audrey Breton, en ce moment, vous essayez de cartographier la phénoménologie de la transe cognitive auto-induite. Vous essayez de recueillir un maximum de vécu pour comprendre ce que fait la transe. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les témoignages?
Ce qui revient le plus souvent, et en fait c'est une manifestation visible de l'extérieur et qui est partagée par les individus, c'est le sentiment d'être un autre. C'est cette phrase que Corinne Sombrin, à l'initiative de tout l'écosystème de transcience, dit souvent, c'est « je est un autre ». Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué l'existence, enfin la présence, par exemple, de manifestations physiques spontanées, non intentionnelles, des sons, des postures, des mouvements. Ce qui revient aussi souvent, c'est le l'imaginaire très présent, ou les changements de sensorialité qui vont impliquer, par exemple, je sais pas moi, le fait de se sentir concrètement avoir des écailles, par exemple, le fait de ressentir le vent comme si on était un brin d'herbe. Quelle autre manifestation aussi revient? On peut avoir également le fait d'être de percevoir des entités, des agents, des figures, pas forcément des personnes, mais c'est également quelque chose qui peut être très présent dans les vécus de trans. On a des changements parfois aussi de température corporelle. Il faut se représenter vraiment que d'un individu à un autre, le vécu de la trans va changer.
Oui, qu'il y a autant de...
Et d'une trans à un autre aussi, pour un individu, le vécu change.
On peut imaginer qu'il y a autant de vécus que d'individus qui font cette expérience, et notamment vous, Céline Lausanne, vous avez testé la trans. Qu'est-ce que vous avez ressenti et vécu? C'est pas un secret, vous avez fait un documentaire radiophonique.
Oui, effectivement, j'ai fait un documentaire...
Carnet de trans,
voilà. L'intention de ce documentaire, ça venait vraiment d'une posture presque sceptique, hein, pour moi qui suis reporter, qui ai l'habitude de m'entretenir avec la communauté des neurosciences. Et j'avais complètement ignoré ce pan de recherche que Corinne Sombrin a amené vraiment dans les paillasses pour l'étudier d'un point de vue phénoménologique, mais aussi clinique. Parce qu'elle a découvert donc ce phénomène que finalement on possède tous en tant qu'être vivant et être humain, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau finalement. Il y a le ressenti subjectif, il y a des phénomènes qu'on arrive à juger de manière qualitative, mais finalement... Quel est le bénéfice de la transe? Est-ce qu'on a effectivement plus de force, plus de puissance? Est-ce qu'on a plus de capacité de raisonnement? Est-ce que l'imaginaire est décuplé? Et si oui, comment en tirer profit pour des pathologies qui sont référencées? Donc par exemple l'oncologie, mais aussi les addictions, le stress. Donc c'est des pathologies à la fois mentales, mais aussi physiologiques. Et vraiment, je me suis demandé... Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme trans qui est très trouble finalement? Et donc je me suis entretenue avec des professeurs comme Antoine Bueil, des chercheuses comme Audrey Breton, Corinne Sombrin, pour comprendre quelle est la science derrière ce phénomène.
Et d'ailleurs, dans Carnet de trans, que vous pouvez podcaster grâce à la collection, enfin grâce au programme de documentaire expérimental L'Expérience, dans Carnet de trans, vous évoquez justement le fait que c'est la lucidité peut-être qui correspondait le mieux à votre expérience.
Oui, après, ça dépend des individus, j'imagine, mais c'est vrai qu'effectivement, en état de transe, mais comme n'importe qui, finalement, quand on est très focalisé sur une tâche, dans ces états de conscience qui sont plus un flow finalement qu'un état statique, hein, même le terme état de conscience est discutable, la capacité d'attention, la vigilance, mais aussi la relation à l'autre, il y a vraiment un caractère écologique dans les trans. On est très poreux à l'environnement, même si on est très centré sur soi. Après, je ne veux pas faire de mon cas une généralité, mais effectivement, la lucidité, la clairvoyance par rapport à une situation donnée. On va faire une transe sous une intention donnée, on peut analyser une situation, jauger une relation avec quelqu'un ou avec soi-même. Donc ça peut être très varié.
Antoine Bury, vous avez également d'autres exemples de transe à partager avec nous.
Oui, je pense qu'il peut être important également de noter que là, on parle beaucoup de transe qui sont induites par une personne ou par soi-même, mais il y a aussi ce qu'on appelle les transe spontanées et que les gens connaissent certainement beaucoup mieux. Si malheureusement, vous avez un décès brutal autour de vous d'une personne que vous la prenez, vous allez être comme sidéré, un peu suspendu. C'est un état de transe, ça répond à cette définition. Si là, vous êtes parti en vacances, peut-être que vous êtes allé dans un pays tout à fait magnifique et puis à un moment donné, vous étiez en haut d'un pic ou d'une montagne et puis tout d'un coup, vous avez vu tout ce paysage qui était en bas et vous avez été complètement béat, c'est-à-dire comme suspendu dans le temps avec tout d'un coup les émotions qui étaient là, mais les pensées qui semblaient être couvertes parce qu'il était en train de se passer. Et puis la beauté du paysage vous a complètement submergé et vraiment vous êtes sorti à un moment donné de votre réalité. Et ça aussi, ça répond à la notion de transe. C'est-à-dire que il y a trois formes de transe et je pense que c'est important de pouvoir la distinguer. La première, c'est celle que je viens de donner, c'est-à-dire ce qu'on appelle les transe spontanées. Vous avez les transes qui sont induites ou auto-induites et on est là dans le cadre d'un dispositif comme un dispositif thérapeutique. Et puis vous avez les transes pathologiques, c'est-à-dire quelqu'un qui par exemple va rentrer dans un processus délirant. Donc on va utiliser le même terme en fait avec ces trois directions, mais les transes spontanées en fait la grande majorité des gens en ont. Et donc lorsque on parle là de choses qui paraissent être des choses extraordinaires, en fait oui, on peut les provoquer, mais ce sont des états qui sont des états physiologiques, neurophysiologiques, psychologiques étudiés depuis maintenant plus de 100 ans.
Antoine Bion, justement sur ces transes spontanées, il y a aussi ces exemples des sportifs ou des musiciens également.
Oui, absolument. Si je distingue un petit peu les deux pour donner deux variantes particulières, les sportifs, on va donner un exemple très simple. Humainement, une personne qui aurait sa conscience ordinaire ne peut pas rester sur un court de tennis pendant 4 heures et demie à supporter la douleur et la fatigue. Et donc, il doit forcément rentrer dans un état qui va lui permettre de pouvoir gérer son corps autrement, c'est-à-dire de laisser aller, on parle parfois d'état de flow, quelque chose dans lequel l'objectif, le désir de réalisation va lui permettre de pouvoir modifier son vécu. Lorsque l'on dit du côté artistique, là aussi pour enfermer peut-être un exemple, mais c'est vraiment l'exemple typique du musicien qui est là avec sa guitare, qui laisse tout d'un coup les mains gratter sur la corde et puis à un moment donné une mélodie qui va apparaître. La personne a l'impression qu'elle, ça vient de nulle part. C'est un moment de création, d'intuition particulière, mais qu'on va aussi appeler un état de transe, c'est-à-dire dissociation. Le terme a été tout à l'heure proposé par Céline et par Audrey, c'est-à-dire le fait que la personne a l'impression d'être là et pas tout à fait être là. Et puis un moment de création va être naître de ça, et c'est ce qu'on appelle également la transe artistique.
Alors comment la science moderne s'est-elle emparée de cette pratique ancienne et qu'a-t-elle permis de dévoiler? Comment la recherche académique explore-t-elle ce phénomène? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Pour ce quatrième épisode sur les nouvelles explorations, nous parlons aujourd'hui de la transe, un champ d'études à défricher. On en parle en direct sur France Culture avec Audrey Breton, Antoine Bioy et Céline Lausanne. Erika Bourguignon, figure de l'anthropologie de la transe des années 70-80, qui est considérée d'ailleurs comme la fondatrice de l'anthropologie de la conscience, s'est appuyée sur un atlas ethnographique. Elle a identifié des formes de transe dans 437 communautés, soit dans 89% des sociétés référencées dans les données ethnographiques disponibles. Ça veut dire, Audrey Breton, qu'on peut parler d'un phénomène universel?
Oui, c'est une manière avec laquelle que l'on tend de plus en plus à utiliser pour essayer de démystifier finalement, d'apaiser les croyances autour du terme de transe, c'est de rappeler qu'en fait c'est une pratique millénaire. C'est une pratique qui est inscrite dans l'histoire de l'humanité, qui n'est pas quelque chose de nécessairement ésotérique, magique, enfin voilà, qui vraiment a traversé l'histoire de l'humanité et qui est retrouvée au travers le monde, peu importe la taille des groupes humains. Et le fait que ce soit documenté dans quasiment toutes les sociétés humaines, nous renseigne sur l'importance que cet état non ordinaire de conscience, la transe, a dû avoir ou a dans notre société.
Démystifier, ça veut dire aussi qu'il y a quand même des réticences de la communauté scientifique, ce qu'on a évoqué il y a quelques instants. Céline Lozen, vous, en tant que justement que journaliste scientifique, quelles sont les limites que vous percevez à propos de ce tout jeune domaine de recherche ?
Je l'ai ressenti en réalisant ce documentaire, notamment auprès de gens qui examinent l'hypnose, donc des grands neuroscientifiques qui ont pourtant profiter de ces décennies de résistance face à l'hypnose en tant que thérapie clinique en tout cas. Donc je me suis posé la question, pourquoi on accepte l'hypnose dans les études cliniques, déployée dans les arsenals de soins, en psychiatrie ou même pour l'anesthésie, les accouchements, et pourquoi la transe connaît autant de résistance? Est-ce qu'on n'a pas tiré les leçons du passé, en tout cas dans le champ des neurosciences, pour catalyser en tout cas des efforts à apporter des financements à ces champs de recherche, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de chercheuses et de chercheurs INSERM, APHP, APHM, en Europe, aux États-Unis aussi. Donc il faudrait peut-être que les esprits décantent et qu'on accepte les faits finalement, que la transe apporte des preuves à la fois pour caractériser le phénomène au niveau cérébral, quels sont les circuits cérébraux en jeu, montrer que ce n'est pas un phénomène pathologique, qu'il est réversible et qu'on peut l'appliquer à des domaines de soins.
Antoine Bury, en tant que psychologue clinicien, c'est difficile, c'est compliqué d'étudier la transe ?
Alors, oui et non, ce que dit Céline est tout à fait exact. Ensuite, quand on dit aux personnes, mais en fait, vous connaissez une forme de transe, c'est l'hypnose, et là, pour le coup, les gens, effectivement, quittent leur croyance ou leur représentation. Il y a une façon de présenter les choses, et vous avez raison dans la présentation que vous en avez faite. On a effectivement toute une histoire avec l'hypnose dans laquelle le terme a fait peur pendant longtemps, et donc on peut aussi s'appuyer sur cette connaissance de façon à amener tranquillement les choses. Ensuite, les études aussi servent à ça. Il y a un très joli papier qui vient de sortir de Pierre Rainville sur les trans musicales. Il y avait également quelques papiers de référence le mois dernier également sur les trans utilisant les psychédéliques, qui permettent vraiment de comprendre les phénomènes. Et qu'est-ce qui fait par exemple que Céline a eu cette clairvoyance dont elle parlait tout à l'heure, et que d'autres vont avoir d'autres manifestations. On a maintenant beaucoup d'éléments de réponse. Il suffit finalement de dire aux gens, mais ce terme-là, effectivement, il peut faire peur, mais vous connaissez déjà des modalités de trans, et peut-être d'ailleurs que vous les pratiquez déjà. Et puis par ailleurs, voici les études, et les choses commencent progressivement à changer. Maintenant, effectivement, on n'en est pas au point où tout est facile, hein, je ne vais pas prétendre le contraire.
Audrey Breton, vous travaillez sur les mécanismes cérébraux associés à la relaxation, et puis ça vous a conduit justement à vous intéresser à la transe, à ces autres états non ordinaires de conscience. Mais qu'est-ce qui vous a précisément intéressé dans ces expériences-là?
Ce qui m'a particulièrement intéressée dans cet état, excusez-moi, on a été coupé.
Ah, je m'interrogeais sur comment vous, en tant que scientifique, vous vous étiez justement intéressé à ce champ-là, à ces expériences de transe.
Venant effectivement d'un autre état non ordinaire de conscience, la relaxation, je pressentais de plus, c'est un peu péjoratif peut-être pour la relaxation, mais je pressentais de plus grandes potentialités, d'éventuels plus grands bénéfices de la transe que du phénomène ou de l'état de relaxation. C'est pour être complètement transparente avec vous. Et c'est à l'écoute d'une conférence de Corinne Sombrin et de Fabrice Midal qui parlait de la méditation et de la transe que mon envie, ma curiosité a été piquée au vif et que je me suis orientée vers l'étude de ce mécanisme spécifiquement. D'autant plus que je découvrais qu'il existait une méthodologie particulière pour apprendre à l'auto-induire. Et non pas, il ne s'agissait pas d'autres phénomènes d'induction qui peuvent entraîner des dépendances, des complexités, notamment, la dépendance à un contexte en tout cas. Et c'est pour ça que je me suis vraiment orientée vers toute la démarche que mettait en place Corinne Sombrin à l'époque.
Corinne Sombrin, justement, Céline Lozen, on peut peut-être placer le personnage et l'importance de cette ethnomusicienne dans l'étude justement de la transe.
Oui, alors, elle a eu beaucoup de mérite parce qu'elle est non scientifique, il faut le rappeler. Donc, elle est musicologue, ethnographe, il me semble. Et c'est lors d'un reportage qu'elle a pu réaliser au nord de la Mongolie, aux côtés d'une tribu qu'on appelle les Tsatans, si je le prononce bien, qu'elle a découvert en elle cette potentialité. Enfin, qu'on a tous, encore une fois, je le répète, mais de manière très décuplée. Donc, je laisserai peut-être Audrey Breton compléter son vécu à elle. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que depuis... Donc ça, c'était en 2001. Elle a réussi à s'entourer progressivement de neuroscientifiques. Et ça, ça a été très difficile pour comprendre en fait ce qui se passait en elle, déjà à l'échelle de l'individu. Donc on sait aujourd'hui que pour avoir des recherches robustes, il faut un échantillonnage assez conséquent. Là, c'est des premières recherches à l'époque, donc il y a une quinzaine d'années, sur son seul sujet. Donc, bien sûr, elles sont lacunaires, ces études-là, mais aujourd'hui, on arrive à intégrer de plus en plus de patientes et de patients. Mais Corinne, aujourd'hui, a cofondé ce Transcience Institute, avec des relations, des interactions, des hôpitaux, des laboratoires, et aussi des étudiants, parce qu'il y a toute la dimension artistique aussi. Donc il y a des écoles, où, les Beaux-Arts par exemple à Nantes, où elle avait pu observer ce phénomène chez les étudiants.
Voilà, et c'est donc Corinne Sombrin qui a mis en place cette approche standardisée qu'est le TCAI, la transcognitive auto-induite, une approche que vous utilisez au Trévé Breton. Alors en quoi consiste-t-elle ?
Alors, en fait, cette approche, c'est vraiment une méthodologie particulière, jalonnée par des objectifs. C'est vraiment un cours qui va s'opérer en deux fois deux jours. Et lors de cet apprentissage, de ce stage de formation, littéralement, vous allez, dans un premier temps, parvenir à identifier ce qu'est pour vous l'état de transe, c'est-à-dire avoir une représentation subjective, corporelle, en tout cas, découvrir ce qu'il est pour vous. Ensuite, vous allez être amené à identifier aussi des manifestations qui s'opèrent chez vous, des manifestations qui peuvent être singulières et qui vont être utilisées ensuite grâce... on vous accompagne dans cela. Donc, ces manifestations qui vous sont singulières vont être utilisées pour vous permettre de retrouver cet état. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va appeler l'identification d'auto-inducteur, en fait. Et petit à petit, donc vous identifiez quel est cet état de transe, vous vous réappropriez la manière avec laquelle vous pouvez retourner dans cet état. À l'issue des 4 jours, la majorité des individus sont capables d'auto-induire l'état de transe. Et l'idée, c'est vraiment que, à l'issue de ces 4 jours, les personnes doivent pratiquer. C'est comme découvrir un nouveau sport. Je vous donne une raquette, je vous montre comment faire du tennis. Si vous ne pratiquez pas dans les semaines et les mois qui arrivent, y a peu de chances que je vous voie sur Roland-Garros. Néanmoins, l'idée, c'est vraiment que c'est un apprentissage progressif d'une nouvelle compétence.
Céline Lozen.
Oui, c'est plus une initiation finalement, en fait, sur ces 2 journées. On est quand même accompagné, c'est-à-dire que on est accueilli donc par Corinne Sombrin et ce qu'on appelle des facilitateurs. Ce sont pas des psys ni rien, ce sont des gens qui sont là pour nous guider et pour nous aider à trouver ces inducteurs que nommait Audrey Breton. Il s'agit de gestes ou de vocalisations, donc chacun va trouver un peu ses techniques, ses triggers qui va permettre d'induire une transe. Et au début, dans les premières séances, il y a des boucles sonores qui ont été designées donc par Corinne Sombrin, Élie Le Kemener, il me semble, qui permettent de faciliter cet état-là. Et l'enjeu, en fait, à la fin de la formation, c'est d'arriver à faire l'économie de ces boucles, d'arriver à s'auto-induire sans les boucles sonores.
Antoine Bieuil, vous souhaitiez réagir ?
Oui, on a effectivement une méthodologie qui est tout à fait intéressante. Il y a d'autres méthodologies qui existent. Et peut-être juste une précision. Comme le disait Audrey tout à l'heure, il s'agit vraiment de formation. C'est-à-dire que ce sont pas des lieux thérapeutiques. Et malgré tout, on est en train de parler, comme chacun l'a compris, en fait, de pratiques qui engagent une dissociation, c'est-à-dire engagent le psychologique. C'est des choses de façon très directe. Si la personne ne va pas bien, si elle a un trouble particulier, quelle que soit la méthode de transe, c'est une mauvaise idée de s'y engager pour essayer de trouver des réponses alors qu'on est un peu fragile dans l'existence. Donc ça concerne évidemment très peu de gens, mais peut-être de préciser qu'il ne s'agit pas quand même de pratiques qui sont anodines.
C'est vrai que toute la semaine, on a parlé, pour ce feuilleton sur les nouvelles explorations, il a été question de danger, l'exploration de l'espace, du grand froid, des grands fonds. Antoine Bieuil, ça veut dire que la transcognitive n'est pas sans danger ?
En fait, les pratiques de transe, c'est, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, qui était tout à fait exact, c'est une façon de pouvoir engager un processus de dissociation. La dissociation, c'est je suis là et ailleurs. C'est comme si vous étiez, on parlait tout à l'heure de tennis, c'est comme si vous étiez à la fois en train de jouer au tennis et puis vous êtes en même temps spectatrice du jeu que vous êtes en train d'avoir. C'est ça la dissociation. Vous avez chez les personnes qui, par exemple, ont des troubles anxieux assez importants, chez évidemment les personnes qui sont délirantes, mais c'est vraiment pas la majorité, on a évidemment déjà des sensibilités à la dissociation, les personnes qui ont connu des psychotraumas. Et donc, si vous engagez sans précaution dans une pratique, quelle qu'elle soit, qui engage une dissociation, vous risquez d'appuyer là où ça ne va pas bien. Donc, il faut vraiment quand même ne pas magnifier ces pratiques et de dire elles peuvent absolument s'adresser à tout le monde, pas dans n'importe quel contexte ou à n'importe quel moment de vie.
Alors, quels sont les effets de la transe sur le cerveau en neuroimagerie? Que comprend-on de ce qui se passe dans un cerveau en état de transe? Reste à l'écoute. Chamanique à la transe cognitive. Comment la transe est-elle investie par les scientifiques? On poursuit notre semaine spéciale sur les nouvelles explorations avec ces bardes de l'Himalaya, Am Pratap, une musique traditionnelle de transe qui accompagne aussi nos trois invités du jour, Audrey Breton, directrice de l'Institut de recherche Transsciences, chercheuse en neurosciences cognitives, Antoine Bioy, psychologue, clinicien, professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Paris 8, Céline Lausanne, reporter et documentariste à France Culture. On vient de tenter dans un premier temps de définir la transe, cet état non ordinaire de conscience qui fait partie de la constellation des états modifiés de nos consciences, et on vient de voir comment l'induire. Alors maintenant, comment l'étudier, Antoine Bioy? Parce que là, on a parlé d'une certaine rigueur dans le protocole des transeurs, mais alors du côté des chercheurs, quelle méthode scientifique pour étudier ces phénomènes?
C'est une question qui effectivement est posée depuis quelques décades, et particulièrement en fait les années 50 à 70, pour lesquelles on s'est dit comment est-ce que l'on approche les trans, à la fois les trans traditionnelles, hein, dont le chamanisme fait partie, les trans thérapeutiques que l'on va plutôt utiliser en Occident, etc. Et on a bien sûr monté des échelles, on a fait des tests, on a cherché la physiologie, et on s'est rendu compte en fait que il n'y a qu'un marqueur qui soit juste et spécifique d'un état de trans, c'est la parole du transeur, c'est-à-dire la parole de celui qui a vécu un moment d'exception. Et donc, on ne peut pas actuellement faire d'études sans se passer de cette parole, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as vécu, d'utiliser des méthodes, comme par exemple la microphénoménologie. Ce sont des entretiens extrêmement précis, c'est pas simplement qu'est-ce que tu as éprouvé, c'est tout à fait au début, à quel moment est-ce que tu as senti une première sensation exceptionnelle, où est-ce qu'elle était dans ton corps, comment est-ce qu'elle s'est développée, de quelle façon, est-ce qu'il y a eu des pensées particulières. Donc on va presque minute par minute venir décortiquer le discours de la personne. Et puis ça, ce sont des méthodes basées bien sûr sur l'expérientiel, sur la phénoménologie. On va le coupler avec des mesures qui vont être des mesures neurophysiologiques si on a l'utilité. On peut aussi faire appel à ces questionnaires dont je parlais tout à l'heure, et notamment ce qui se fait maintenant beaucoup, c'est d'utiliser des questionnaires pour voir un peu quels sont les préalables de la personne, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'elle croit et qu'est-ce qu'elle va avoir l'impression qu'elle va connaître à ce moment-là. Et dans l'ensemble des trans actuellement, qu'il s'agisse de l'ère de la TCA, puisqu'on avait fait des études sur la TCAI, mais aussi sur les trans psychédéliques. Il y a 3 mois, il y a eu un très joli papier qui est sorti là-dessus, ou d'autres formes de trans. On se rend compte à quel point, en fait, le facteur principal qui influence le vécu d'une personne et ses manifestations physiologiques, Audrey en parlait tout à l'heure, l'augmentation de la force, de l'endurance, toutes ces manifestations qui peuvent être là, sont en fait des éléments de contexte et des éléments préalables. Autrement dit, la personne, si je suis un peu simple, la personne qui a l'impression qu'il va se passer quelque chose dans une direction donnée, va tout faire pour que ça puisse se réaliser. Et le contexte va favoriser cela. Et donc, quand on parle d'études, de recherche, on essaye vraiment d'avoir ces différents facteurs, les facteurs qui relèvent vraiment du vécu, d'aller chercher l'expérience de la personne, de le coupler avec des marqueurs neurophysiologiques, et puis d'aller voir également tout ce qui est de l'ordre des croyances préalables, ce qu'on appelle le mind and setting, c'est-à-dire le contexte, l'état d'esprit particulier, parce qu'on s'est rendu compte que, notamment dans les trans psychédéliques dont on parle beaucoup actuellement, c'est le principal facteur de vécu particulier.
Oui, donc en quelque sorte, c'est une forme de biais.
C'est pas un biais, c'est la beauté de l'humain qui a la possibilité de créer sa réalité. Et qu'on va, donc, en fait, c'est pas un pied de nez, c'est-à-dire que, par exemple, dans la pratique thérapeutique, celle que j'ai par exemple sur le CHU de Bordeaux, à l'IMIC, on va utiliser ça. Qu'est-ce qui fait que l'on peut aider quelqu'un qui a des attaques de panique, qui va avoir un trouble neurologique, qui va avoir des douleurs, bien sûr? C'est précisément cette faculté de pouvoir construire sa réalité autrement. Et donc, quand je dis effectivement qu'il y a d'autres variables que simplement le rythme qu'on a entendu, d'autres facteurs, c'est justement la beauté de la chose, ou en tout cas ce qui va nous servir thérapeutiquement pour aider les patients. Comment est-ce que je peux vous aider pour créer le contexte où vous allez par vous-même modifier votre réalité?
Céline Lozen.
Oui, il y a beaucoup de déclaratifs en fait dans les études TCAI, mais il y a quand même des efforts pour arriver à quantifier les phénomènes, ne serait-ce que les études sur la douleur ou la force physique sous TCAI. On arrive à l'aide de scoring et d'instruments de mesure comme des algomètres sous EEG, donc sous mesure encéphalo-électrique, arriver à quantifier vraiment la différence de ressenti en état de transe et post-transe. Donc on peut au moins avoir des valeurs numériques pour faire des évaluations entre individus et inter-individus.
Antoine Bieuille, vous souhaitiez réagir peut-être. En effet, ce point sur la perception de la douleur qui n'est pas la même lorsqu'un cerveau est en transe, est-ce qu'il n'y a pas finalement, je ne sais pas, on peut imaginer une sorte d'habituation à la douleur également?
Peut-être juste pour compléter ce que disait Audrey, pour justement aller dans ce sens-là. Et c'est notamment les recherches d'Alexandre Coutet sur Paris 8 qui montrent qu'il suffit de demander à la personne d'imaginer qu'il y a une enclume ou qu'il y a une plume. Et du coup, on a une variation en fait de ses capacités physiologiques. Donc c'est pour ça que les deux sont effectivement couplés. C'est à la fois le contexte que la personne a dans la tête et puis également le corps qui va être présent. Alors une habituation, eh bien j'espère bien. C'est-à-dire que on va effectivement quand on accompagne un patient, quelle que soit la pathologie, on va effectivement en plus, bien sûr, de l'arsenal habituel. Il ne s'agit pas du tout de remplacer un arsenal thérapeutique par ailleurs par ces méthodes, mais on va lui apprendre à pouvoir utiliser ce potentiel particulier. Et précisément, l'intérêt, il est que la personne pratique le plus longtemps possible. On citait tout à l'heure la méditation. Alors, toutes les méditations ne sont pas des trans, mais certains en sont malgré tout. Et l'intérêt, il est vraiment que la personne pratique tous les jours. Il est que la personne pratique l'auto-hypnose tous les jours, etc. Donc, on souhaite vraiment que la personne ait une forme d'habituation. Tout à l'heure, il y avait cet exemple, cette métaphore qui était donnée en fait de l'exercice sportif, c'est totalement ça. Enfin, c'est pas parce que quelqu'un à un moment donné est bon dans le petit running qu'il va avoir tous les matins qu'il doit arrêter de courir. Il doit en fait continuer à courir pour avoir tous les bienfaits qu'il le souhaite. Et c'est la même chose pour ses pratiques. Ensuite, il y a effectivement cette petite précaution que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il s'agit que la personne le fasse à son service et à un moment donné qu'il n'y ait pas une perception que ses pratiques sont la panacée, une réponse à tout. Et là, effectivement, c'est dans quelque chose un peu déviant.
Par rapport justement à ces études et à ces analyses couplées entre vécu et données physiologiques, vous aussi, Audrey Breton, vous pratiquez cette méthode. Par exemple, si une personne vous dit avoir ressenti du feu, est-ce que vous allez regarder par exemple si la température du corps varie?
Alors, je ne vais pas nécessairement regarder ça, mais on est effectivement à la recherche d'indicateurs objectifs qui nous renseigne sur le fait qu'un individu est ou non dans un état de transe. Alors là encore, mon objet d'étude, c'est la TCAI. Donc la grande question qui anime vraiment à chaque fois les chercheurs et qui là nous pose encore quelques petites contraintes, c'est effectivement de dire nous sommes effectivement en train de travailler avec des individus qui sont dans un état de transe. Et pour ce faire, nous comme le mentionnait Antoine, nous allons coupler des mesures physiologiques, électrophysiologiques et des retours subjectifs. Une manière, par exemple, aussi de s'assurer qu'un individu entre ou non dans un état de transe, en tout cas dans un état de transe auto-induit, c'est de réfléchir de la façon la plus aiguisée qui soit à des comparaisons, c'est-à-dire avoir des groupes contrôles qui nous permettent de créer des contrastes et de pouvoir observer des différences entre différents paramètres, notamment les paramètres physiologiques qui ne sont pas sous le contrôle de l'individu. C'est ça qui est aussi très intéressant. Il faut rappeler quand même que avant 2-3 ans, il n'existait pas d'individus capables d'entrer il n'existait pas de cohorte d'individus capables d'entrer dans un état de transe de façon volontaire, il n'existait pas de population. Céline le disait tout à l'heure, on ne bénéficiait finalement que des données d'un cerveau pas du tout ordinaire qui est celui de Corinne Sombrin. Donc, tout cela se met en place. On a déjà des données de nature plutôt objective, physiologique, qui vont concerner ce qu'on appelle le système nerveux autonome, qui ont été obtenues par un post-doctorant qui maintenant est chercheur à Montréal et qui s'appelle Victor Oswald, qui travaillait à l'Université de Liège avec Audrey Van Adenhuys et Olivia Gosseries, qui sont les premières finalement à avoir obtenu des données de nature plutôt physiologique couplées avec des données subjectives, des données cérébrales, des données cardiaques, respiratoires et des questionnaires. Et Victor a pu analyser les données de 27 transeurs qu'on va considérer comme étant confirmés, experts, c'est-à-dire des gens qui pratiquent la TCAI depuis plus d'un an. Donc effectivement, cette notion de régularité dont parlait Antoine. Et on a déjà des indices, des différences entre, par exemple, des individus qui sont dans un état de repos, des individus qui vont imaginer des choses et des individus qui vont entrer dans un état de TCAI. Ce qu'il a observé, ce qu'il a rapporté, c'est qu'il y a une augmentation du volume respiratoire pendant la TCAI, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque et une diminution, enfin des changements de la variabilité cardiaque. En fait, on a quand même des indices objectifs d'un état de transe qui vont affecter ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Et ce n'est pas du tout les seuls qui sont en train d'être étudiés. On a la première doctorante qui a été financée là il y a un an et qui s'intéresse par exemple aux variations de certaines hormones au cours de l'apprentissage de la TCAI et de la pratique à long terme.
Et puis Antoine Bio, on peut aussi évoquer. Il y a eu deux résultats importants qu'on a obtenus ces 15 dernières années.
Oui, en fait, pour dans la continuité de ce que dit Audrey, toutes ces études, en fait, elles sont là au service des personnes et en tout cas dans le champ thérapeutique, au service des patients. Quel est l'intérêt ? Il est effectivement de se dire, ben, lorsque quelqu'un va avoir une pathologie ou des besoins particuliers, comment l'orienter au mieux ? Et donc là, effectivement, Audrey vient de citer le travail remarquable de l'équipe d'Audrey Van Adenhuys et d'Olivia Gosseries sur l'Université de Liège, et notamment en oncologie, mais aussi sur d'autres pathologies, avec différentes modalités, dont hypnose, TCA, méditation, et de montrer que, par exemple, ces trois formes de transe ne travaillent pas au même endroit. Et donc ensuite, la finalité, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir aider les patients, ou plutôt pour tel profil de patient, comment les orienter au mieux pour pouvoir arriver à cette modification de la réalité dont je parlais tout à l'heure. Il était précisé tout à l'heure par Céline qu'on était effectivement des pratiques qui étaient anciennes. En fait, les traces que l'on a, c'est des pratiques thérapeutiques. C'est-à-dire de montrer effectivement que telle pratique et telle autre pratique va être utilisée dans telle et telle indication. Donc, notre travail en tant que chercheur, il est effectivement de pouvoir aller plus loin dans ces connaissances de façon à pouvoir mieux orienter les patients. Et ce dont on s'est rendu compte donc ces dernières années, c'est d'abord qu'il ne s'agissait pas d'imagination. C'est-à-dire, on parle d'ailleurs maintenant moins d'imagination que d'imaginal, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'un patient est en train de vivre ce qu'il dit qu'il est en train de vivre, son corps qui a des mouvements automatiques, le fait qu'il y a une émotion tout d'un coup qui est en train de le saisir, une hallucination qui peut être là, réellement, il est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre. Il n'est pas en train d'affabuler, il n'est pas en train de créer une narration. Son corps est réellement en train de se diriger vers ce vécu et en thérapeutique, on va bien sûr l'orienter dans une différence, dans une direction particulière.
Le corps réagit malgré l'absence de stimuli extérieurs.
Alors, avec les stimuli extérieurs, mais pas que. Et il va effectivement interagir aussi avec une intention, avec des prérequis, avec bien sûr un accompagnant qui va orienter les choses.
Autre résultat, le fait que les états de conscience sont beaucoup plus orientés vers l'intérieur, c'est quelque chose qui ressort d'une étude menée par des chercheurs à l'Institut Max Planck des sciences du cerveau et de la cognition, qui a observé que le réseau du mode par défaut des participants, qui est donc impliqué dans l'introspection et les processus de rêverie, serait plus activé en état de transe qu'au repos, Antoine Bury.
Alors oui, dans une deuxième partie, c'est-à-dire que dans la première partie, on est plutôt sur une mobilisation de, on va dire, du système attentionnel pour dire les choses un peu rapidement, et ensuite il y a effectivement ces processus que l'on dit automatiques, c'est-à-dire une diminution de la pensée, une diminution du sentiment que la personne va avoir de pouvoir agir ou de contrôler ce qui est en train de se passer, et là il va y avoir toute cette mécanique corporelle, pas simplement du cerveau, dans lesquelles la personne va commencer non seulement à pouvoir se réorienter dans une direction donnée quand on parle de santé, mais aussi à retravailler son identité. Et effectivement, ce mode par défaut, peut-être en deux secondes, ne ment pas défaut. On a cru que quand le cerveau ne faisait rien, quand le corps ne faisait rien, le cerveau ne faisait rien. On s'est rendu compte que quand on ne fait rien, en fait, le cerveau en profite pour faire énormément de choses. Ça participe de la construction du monde, ça participe de la construction de l'identité. Et dans les trans, c'est ce qui va, dans un deuxième temps, être mobilisé.
Audrey Breton, une réaction rapide.
Oui, en fait, c'est pour compléter un peu les propos d'Antoine, il y a des grosses différences en fonction des différents états non ordinaires de conscience, du sens d'activation de ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. À la fois en fonction par exemple, de la nature de l'état, mais aussi en fonction de l'exercice d'induction. Ce qui est aussi essentiel et ce qui différencie, par exemple, la TCAI des trans chamaniques, c'est la méthodologie d'induction. Lorsque, typiquement, les individus sont engagés volontairement dans l'exercice d'entrée dans un état, ce qui est le cas, par exemple, de la TCAI, ce réseau du mode par défaut va avoir un sens d'activation particulier, ce qui n'est pas la même chose lorsque, par exemple, les individus sont projetés dans un état différent, un état non ordinaire, comme par exemple dans les psychédéliques. La notion le rôle du réseau du mode par défaut, en tout cas dans la TCAI, n'est pas encore complètement élucidé. Ça va être l'objet d'une future étude en neuroimagerie. Néanmoins, ce que l'on considère, c'est qu'il va interagir de façon renforcée avec les aires qui gèrent notre attention pour nous permettre de la maintenir vers ce qu'on va appeler le flow interne. C'est effectivement ce qui est avancé par McElhove et être à l'origine de l'expérience subjective. De la phénoménologie de notre vécu.
Alors, quels pourraient être les usages de la transe en thérapie ? On poursuit avec cette question et une lecture, un extrait pour l'introduire. Comment la transe nous amène-t-elle à cette altérité, à cet autre qui sommeille en nous ? Je repense aux paroles des transeurs rencontrés jusqu'ici. La sensation d'ouverture est commune à toutes leurs expériences. Ils affirment que cela leur ouvre les portes d'un espace plus vaste, que leur vision est plus étendue, que leur capacité à agir et à ressentir est augmentée, que leur potentiel physique et mental, créatif et analytique, est amplifié. Surtout, ils confient qu'après avoir goûté, testé, puis dompté cet état, le monde est réellement plus grand et la réalité plus limpide. Des déclarations floues et difficiles à comprendre, mais comme j'allais l'observer quelques mois plus tard, ce qui leur est en effet difficile de décrire et d'expliquer est pourtant bien ancré en eux.
Qu'est-ce que c'est que le jazz pour moi ? Moi, je sens dans le jazz de l'improvisation. Et du moment où il y a quelque chose qui est prémédité, cela me touche moins. C'est-à-dire qu'on abolit, à mon sens, une des puissances du jazz. Par conséquent, pour moi, il y a de la transe lorsqu'il y a de l'improvisation. À mon sens, à l'origine du jazz, il y a la transe. Sans transe, la transe, au fond, vient d'Amérique avec le tam-tam. Et c'est ça qui distingue l'origine du jazz à la Nouvelle-Orléans. Il y a la transe. C'est-à-dire que les gens entraient en transe lorsqu'ils jouaient parce qu'ils perdaient le contrôle, parce qu'ils perdaient la logique. Voilà comment je conçois le jazz. Pour moi, le surréalisme en matière de musique, c'est lorsque l'homme est libéré qu'il parvient éventuellement à entrer en transe et à se laisser exprimer. Voilà comment je le conçois. Alors vous me demandez, est-ce que la transe est courante ? Elle est courante. Et au début, quand je m'en suis occupé, car laissez-moi tout de même vous dire que je m'intéresse au phénomène du jazz depuis 1919, quand j'ai entendu les premiers orchestres, eh bien je constatais qu'il y avait de la transe. Et j'ai même constaté quelque chose qui est plus exceptionnel. C'est que ceux qui n'avaient pas la transe, car il y a malgré tout parmi les musiciens de jazz des musiciens qui sont des musiciens froids, qui ont un contrôle sur ce qu'ils font. Et ce contrôle est naturellement le propre du musicien européen. Eh bien, j'ai vu que parmi ces musiciens, là-bas, en Amérique, il y en a qui suppriment la logique, qui suppriment le pouvoir de contrôle par un moyen artificiel qui s'appelle le marijuana, par exemple. Oui. Par exemple, il y a eu Rapolo. Je crois que Rapolo est celui qui a inventé le moyen. À mon sens, c'est bon, ça peut permettre éventuellement de libérer l'individu occasionnellement, mais vous comprenez très bien que si ça dure, l'intéressé n'est plus dans un état de libération suffisante. En réalité, si je puis me résumer, la marijuana a pu être à un moment donné un moyen de libération, mais laissez-moi vous dire, et j'en suis absolument certain, qu'à la longue, c'est purement et simplement un esclavage.
Un extrait de Trance, enquête sur un état de conscience modifié, puis la voix de Robert Goffin sur l'ORTF en 1956. Alors, les effets de la trance sur la créativité, on n'a pas vraiment le moyen d'évaluer ces effets-là. Mais d'un point de vue thérapeutique, pour conclure, Antoine Bueil, on arrive à la fin de cette émission. Quels pourraient être les usages de la trance en thérapie?
Alors, ils vont être sur le champ somatique, thérapeutique. D'ailleurs, félicitations pour cette archive que je ne connaissais pas. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est tout à fait exact tout ce qui a été dit sur ce que l'on sait en tout cas de cet inducteur particulier. En fait, globalement, il n'y a pas d'indication nouvelle qui est donnée par la transe. C'est-à-dire que les indications que l'on connaît dans le champ du thérapeutique, ce sont des indications qui sont déjà travaillées. Simplement, on va les travailler autrement. L'intérêt de la transe, il est de pouvoir mettre en avant l'individu, son potentiel, ses capacités, au service, en tout cas dans le thérapeutique, au service de son mieux-être. Donc on essaye effectivement d'avancer. J'ai créé sur Paris 8 le diplôme universitaire d'études autour des trans, qui réunit précisément à la fois des chercheurs, des cliniciens et également des musiciens, des danseurs, etc., pour discuter de tout ça. Et l'intérêt, il est effectivement de voir que, en fait, ce qu'il y a de créer, c'est ce que va créer l'individu pour lui-même et dans son existence. Mais il n'y a pas de nouvelles indications qui avancent. Alors ensuite, bien sûr, il y a des tableaux qui peuvent être des tableaux complexes, hein, sur lesquels on a des difficultés à dire et qui vont être explorés notamment par certaines trans pour voir comment ça fonctionne. Mais vraiment, les trans, en fait, c'est aller du côté du potentiel humain et peut-être de se détacher d'un certain nombre de dimensions culturelles un peu aliénantes pour se dire revenons à l'individu, revenons à ce qu'il est et voyons comment est-ce qu'on peut l'aider à l'utiliser ce potentiel dans la direction souhaitée.
Oui, Céline Lozen, la trans n'est pas thérapeutique en soi, c'est l'accompagnement qu'il est. On peut l'imaginer dans plusieurs applications possibles.
Oui, comme je l'évoquais en début d'émission, effectivement, il y a plusieurs secteurs thérapeutiques au-delà de la seule caractérisation du phénomène au niveau cognitif. On citait l'oncologie, donc il faut savoir qu'il ne s'agit pas de guérir le cancer, non, pas du tout. Il s'agit d'accompagner le bien-être des patientes et des patients en rémission, après de pouvoir supporter bien le traitement. Ensuite, on a dans la psychiatrie pour accompagner les gens qui souffrent d'addiction ou de PTS, d'anxiété. Au niveau physiologique, il y a aussi tout un pan de recherche qui va se déployer. Mais encore une fois, il faut beaucoup plus d'études avec plus de participants et donc former plus de gens.
Bien, on est dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. On est arrivé à la fin de cette discussion. Je vous remercie, un grand merci à vous trois. Céline Lozen, je rappelle que votre ouvrage Trans, enquête sur un état de conscience modifié, paru en 2024 aux éditions du CNRS, est disponible en librairie, avec d'ailleurs en couverture un magnifique tableau de Max Ernst, un artiste surréaliste, et que votre documentaire L'Expérience, intitulé Carnet de Trans, est à retrouver évidemment sur votre appli préférée, l'appli Radio France. Tout de suite, on change complètement de sujet. Les Roms, les Gitans et les Manouches sont victimes d'une injustice environnementale. C'est la chronique Avec Science d'Alexandra Delbo.
Les gens du voyage subissent-ils une injustice environnementale? Environ 300 000 personnes en France et 6 à 8 millions en Europe sont regroupées sous la dénomination de gens du voyage. C'est un terme parfois un peu vague dans le langage commun. On l'emploie pour désigner les Roms, Gitans, Manouches, Sintés, Yéniches. Mais c'est en droit français une catégorie administrative. Il s'agit de populations sans domicile fixe, parfois itinérantes, qui ne vivent pas de manière strictement sédentaire. Ces communautés subissent de nombreux préjugés et discriminations d'ordre social, sanitaire et même environnemental. Léa Tardieu est chercheuse en économie de l'environnement à INRAE et au CIRED.
Il y a une littérature qui est assez éparse, qui montre une haute vulnérabilité des gens du voyage et un sentiment d'anti-ziganisme. qui montrent en Europe qu'ils ont souvent une espérance de vie moins importante, qui peut aller de 7 à 14 ans de moins que la population générale, une plus basse éducation, des faits de crimes de haine, d'hostilité très fortes, notamment au Royaume-Uni, ça a été renseigné, et qui sont largement marginalisés et ont beaucoup moins d'accès à des services de santé. Ça, c'est pour la littérature européenne. Et en France en particulier, il y a une littérature plus en sociologie qui a montré justement ces discriminations envers la population des gens du voyage. Et aussi le livre de William Acker qui a cherché à renseigner ces discriminations environnementales, notamment en montrant ces aires de gens du voyage étaient souvent exposées à des nuisances environnementales.
On entend par nuisance environnementale toute diminution de la qualité d'un environnement. Il peut s'agir de pollution de l'air, d'odeurs, de poussière, mais aussi de bruit à cause d'infrastructures lourdes comme les autoroutes, lignes de train, aéroports, mais aussi des déchetteries, stations d'épuration ou encore usines polluantes. Les rares travaux déjà menés ont montré que les gens du voyage, par la localisation des emplacements d'accueil, y sont exposés, mais à quel point est-ce systématique? Et surtout, sont-ils davantage touchés que d'autres populations urbaines? Autrement dit, subissent-ils de plein fouet une injustice environnementale? Pour répondre à cela, il faut d'abord savoir où sont implantées en France ces aires d'accueil. Eh bien, elles devraient être partout. Depuis la loi Besson en 2000, les communes de plus de 5000 habitants sont tenues de prévoir des emplacements de séjour. Or, dans les faits, ce n'est pas le cas. Seuls 12 départements sur 95 respectent les prescriptions prévues. Dans cette nouvelle étude parue dans Nature Cities, ces scientifiques ont analysé l'implantation de 1500 aires d'accueil actives, donc réellement utilisées en France. Résultat, ces emplacements sont situés dans les villes les plus exposées à ces nuisances. Et à l'intérieur même des communes, ces aires d'accueil sont aussi les plus exposées que tout autre quartier, même les plus défavorisés.
À l'intérieur même des communes, on a des aires qui sont placées dans des zones qui sont déjà défavorisées. Mais les aires d'accueil, elles sont plus à proximité de plusieurs sources de pollution. Notamment, elles ont trois fois plus de probabilité d'être à proximité, par exemple, d'une déchetterie, ou deux fois plus de probabilité d'être à proximité d'une station d'épuration ou d'une autoroute. Elles ont plus de risques d'être proches d'un site hautement pollué et 40% plus de risques d'être à proximité d'une usine classée Céveso, c'est-à-dire qui présente un risque industriel. Du coup, les aires, elles sont non seulement placées dans des zones modestes sur le plan économique, mais que parmi ces zones modestes, elles sont aussi situées dans les zones les plus exposées aux nuisances environnementales. Donc ça rejoint effectivement le constat de William Acker, mais on apporte une preuve statistique en plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire « oui, ces résultats, c'est dû au fait que ce sont des citadins et tout citadin est exposé ». Là, on montre que les aires d'accueil sont plus exposées que n'importe quel autre citadin et même que n'importe quel autre citadin économiquement défavorisé.
Les minorités ethniques sont souvent confrontées à des inégalités environnementales. Mais les gens du voyage constituent un cas particulier en France. L'aménagement du territoire leur impose directement un lieu de vie. Alors, pourquoi ces choix d'implantation? Est-ce pour des raisons économiques, parce que les terrains y sont moins chers, ou est-ce par rejet social, du racisme? Ce que les anglo-saxons appellent le NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin, pas près de chez moi, un phénomène que l'on connaît pour les salles de consommation à moindre risque. C'est peut-être un mélange des deux, car ces explications ne s'excluent pas. La suite de l'étude consistera à déterminer qui est arrivé en premier, les nuisances ou les aires d'accueil. Tout porte à croire que les nuisances existaient déjà, mais l'enjeu de la recherche, comme toujours, est de dépasser l'intuition et d'établir de façon quantitative et rigoureuse ce phénomène.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Joseph Schlegel, Céline Lausanne à la réalisation, Delphine, merci, mille merci à la technique, Paul Guigues. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.